contre toute immigration nouvelle, à 4 millions, un peu plus, 4 200 000 étrangers en France. Nous ne pouvons pas héberger toute la misère du monde, ce n'est pas possible.
C'est Michel Rocard face à Anne Sinclair, le premier ministre de François Mitterrand et l'invité de 7 sur 7 sur TF1 le 3 décembre 1989. Le pays qui ne peut pas héberger toute la misère du monde, c'est d'abord cette idée que les caisses de la France ne sont pas assez profondes, que l'immigration est un fardeau financier. Alors que coûtent les immigrés à l'État? Les économistes, ces animaux à sang froid, se sont penchés sur la question. Ils ont regardé de 2006 à 2018. Et cette semaine, ces experts de l'OCDE ont publié la réponse sans nuance. Les immigrés ne coûtent rien. Parfois même, ils rapportent un peu. Est-ce que c'est vrai aussi pour la France et ses 6 800 000 immigrés? Oui, je lis. Contribution légèrement excédentaire. Alors tout est pris en compte, hein, impôts, retraite, chômage. D'un côté, les immigrés sont surreprésentés dans les logements sociaux, parmi les bénéficiaires du RSA. De l'autre, ils reçoivent moins de dépenses de santé parce qu'ils sont plus jeunes, moins de dépenses d'éducation parce qu'ils arrivent plus tard. Les immigrés ne creusent pas le déficit budgétaire. Alors sans doute, leur bilan fiscal pourrait être supérieur. Dans certains pays, ils rapportent davantage au compte public parce qu'ils sont moins au chômage que chez nous. Et ça, c'est notamment la question de l'argent que l'on consacre aux politiques d'intégration et de formation, et donc du retour sur investissement que l'on serait en droit d'attendre.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Bienvenue par ici, on parle de l'économie comme on la vit et nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Je vous donne le programme. Notre invitée ce samedi 30 octobre, à la veille de la COP26, c'est la patronne d'un champion de l'énergie, Catherine McGregor, la directrice générale d'Engie. Engie, comme vous le savez, avant ça s'appelait GDF Suez, deux leaders français qui ont fusionné en 2008. Question sur le prix de l'énergie, sur le bouclier tarifaire, sur la transition énergétique. Comment va-t-on se chauffer, se déplacer, s'éclairer, transporter, produire sans énergie carbonée? Interview vers 9h45. Il faut accélérer le développement des énergies renouvelables. Rapport crucial de RTE cette semaine. Mais implanter des éoliennes et des panneaux solaires, ça veut dire trouver du terrain. Et cela devient de plus en plus difficile. Vous entendrez le reportage de Marion Ferrer. Rendez-vous aussi avec Madame Vioboulot. Bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra.
Sandrine, nous avons Claude qui vous a écrit. Claude, il se soucie de sa retraite.
Oui, de sa retraite complémentaire. Dès lundi, vous le savez, la revalorisation sera moindre que prévu. À terme, sa pension va-t-elle baisser? C'est sa grande interrogation.
On vous retrouve juste avant 10h. J'étais en train de me dire, j'ai dit Catherine McGregor, 9h45, mais ça sera 9h35. Donc voilà, c'est d'ici une bonne vingtaine de minutes. Tout de suite. Là, je suis bonne. Les débatteurs, ils sont autour de la table. Laurent Bigorne, le directeur de l'Institut Montaigne. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Et bonjour et bienvenue à vous, Vincent Grimaud, de la rédaction d'Alternatives économiques.
Bonjour.
Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger. Le groupe de Mark Zuckerberg vient d'adopter un nouveau nom, Meta. On en parlera un peu, sans doute, de ce métaverse, cette réalité virtuelle qui ne suffit pas à faire oublier la real life, la vraie vie, dans laquelle Facebook est accusé de faire passer le profit avant tout le reste, les humains et les démocraties.
Les réseaux sociaux sont devenus immense, tellement que on a eu les Panama Papers, on a eu les Pandora Papers et maintenant on a les Facebook Papers, une fuite plutôt embarrassante pour le réseau social.
Tens of thousands of leaked documents from the country, the Facebook Papers.
Ça fait plus d'un mois que les journaux américains feuilletonnent les Facebook Papers, ces milliers de documents internes remis à l'autorité boursière américaine par la lanceuse d'alerte Frances Haugen.
Nous vivons dans un monde où les informations sont pleines de contenus qui suscitent la haine. Cela diminue le civisme et notre confiance mutuelle. Cela diminue notre capacité à vouloir prendre soin des autres. Facebook a compris que s'il modifie son algorithme pour qu'il soit plus juste, les gens passeront moins de temps en ligne, ils cliqueront sur moins de publicité et donc Facebook gagnera moins d'argent.
Nous faisons des centaines d'études et de recherches par an qui ont comme impact d'améliorer l'utilisation des plateformes, d'améliorer nos outils.
Laurent Soli, directeur général de Facebook France.
Je vous donne un exemple. On a observé qu'il y avait des risques parfois de harcèlement. Nous avons mis en place des outils automatisés qui bloquent des commentaires de haine.
Con revelaciones como la falta de controles de la compañía frente a los discursos que incitan al odio racial, religioso o político.
L'essence du problème, oui, c'est l'algorithme Facebook.
Quand j'entends « on va réguler les algorithmes », on ne peut pas réguler un algorithme parce qu'on ne peut pas évaluer sa logique entièrement.
Aurélie Jean.
Par contre, on va pouvoir réguler la manière dont on les développe, la manière dont on les pense, la manière dont on les entraîne, la manière dont on les teste.
Docteur en sciences numériques.
La régulation va encourager, pour ne pas dire forcer les acteurs à, j'espère, tester massivement leurs outils.
Big tech now faces. Les géants de la tech sont confrontés au même moment de vérité qu'a connu l'industrie du tabac.
Richard Blumenthal, sénateur démocrate du Connecticut.
Mark Zuckerberg va devoir se regarder dans le miroir et prendre ses responsabilités et montrer l'exemple.
Bernard Benamou, secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique.
For users, la relation des utilisateurs avec Facebook est tendue. Et ce qui est clair aujourd'hui, c'est que cette mauvaise publicité commence à effrayer et à être dangereuse pour les investisseurs. On a vu qu'il y avait des fluctuations en bourse et ce n'est que le début. Et ce qu'on sait tous maintenant, c'est que le statu quo sur Facebook ne peut pas continuer à long terme.
Laurent Bigorne, je me tourne vers vous. Est-ce que Facebook est un monstre du capitalisme?
Ah, il y a deux, Facebook au moins. Il y a un côté conte de fées, la success story à l'américaine. Facebook, le trombinoscope qui était vaguement parti du campus de Harvard en 2004, créé par une bande de copains, dont le fameux Mark Zuckerberg, jusqu'au Facebook qui est le fameux F de GAFA, c'est-à-dire cet acronyme qui désigne les plus grandes entreprises technologiques du monde. C'est le quatrième site le plus consulté au monde. C'est le premier réseau social dans le monde avec près de 3 milliards d'utilisateurs. Je vous rappelle que sur Terre, on est 7,7 milliards.
Ouais, c'est fou.
Point intéressant, en 2020, on apprend dans les Facebook Papers que 5 milliards de fonds comptes ont été supprimés. C'est-à-dire qu'on a chaque année, si j'en crois les documents qui ont été publiés dans la presse américaine et européenne, presque deux fois plus de faux comptes que de vrais utilisateurs. Mais Facebook vous dira, nous les supprimons. C'est deux tiers des utilisateurs de réseaux sociaux dans le monde. Dans notre pays, en France, c'est 40 millions d'utilisateurs. Et c'est un réseau qui n'a cessé de croître, à la fois par la croissance de ceux qui le rejoignaient, mais aussi parce que Facebook est d'abord et avant tout une entreprise, ça n'est pas une ONG. Et Facebook a racheté en 2012 Instagram pour $1 milliard. Ça ressemblait furieusement à l'époque à de la neutralisation de concurrents plus avancés. Facebook a racheté WhatsApp pour beaucoup plus cher, pour près de 20 milliards. En 2014, et cette entreprise est parmi les plus efficaces au monde. Je rappelle que le chiffre d'affaires de Facebook en 2020, c'est $86 milliards, essentiellement des revenus publicitaires, contre 70 en 2019. Ça veut dire que Facebook, comme beaucoup d'entreprises technologiques, a profité du confinement pour un résultat net de 29 milliards. Donc la marge est absolument considérable. Elle augmente d'ailleurs de 58% entre 2019 et 2020. Et donc il y a ce côté success story qui fait que parfois on a tendance à oublier que Facebook est une entreprise extraordinairement puissante et qui a, on a entendu dans le sujet, de plus en plus de questionnements sur ses responsabilités.
Et sur ses responsabilités, le fait est que Facebook fait énormément de profits et qu'elle est vraiment drivée, j'allais dire, j'arrive pas à trouver le mot français, orientée vers le profit. Et c'est pour cela que je vous pose la question à votre tour, Vincent Grimaud. Est-ce qu'a-t-on appris cette semaine? Est-ce qu'on a appris que c'était la dark side, le monstre?
Oui, on connaît les. Il y a plein de critiques un peu structurelles qui touchent Facebook, le fait qu'il est trop gros et que quand il est en panne, comme ça a été le cas il y a 3 semaines, il y a rien qui est prévu. Quand vous êtes une énorme entreprise systémique, en général, vous avez un régulateur qui vous dit vous devez avoir des procédures, etc. Là, ça n'existe pas. On sait que Facebook a aussi une critique structurelle qui est son algorithme qui a été revu en 2018 et qui. Alors l'algorithme, c'est quoi? C'est l'intelligence artificielle qui va regarder ce que je fais sur mon mur et qui va me proposer des contenus très personnalisé. Et c'est ça tout le business model de Facebook. Et en 2018, ils ont revu cet algorithme et ça a eu tendance à hystériser le débat. C'est-à-dire que toutes les réactions de colère ou toutes les réactions intenses sont valorisées. Et donc ça a tendance à polariser le débat et à amener à des fragilisations démocratiques puisque vous avez, par exemple, dans l'affaire du Capitole, l'envahissement du Capitole aux États-Unis, le rôle de Facebook qui est très clair. Donc ça, c'est des critiques un peu structurelles.
Et pourquoi ils ont revu leur algorithme? Parce que ça génère, pour garder le plus de clics possible. C'est là où le profit intervient.
Facebook, c'est d'abord un média d'audience. C'est un média de flux. Et donc, il faut garder d'abord un maximum d'utilisateurs et il faut que les utilisateurs aient un maximum d'interactions. Tout ce qui va venir gêner les interactions a plutôt tendance à être écarté. C'est ce qu'on apprend en tout cas dans les Facebook Finds ou Papers, tels qu'ils ont été encore une fois publiés. Mais on n'apprend pas que ça. On apprend les doutes qu'a Facebook sur l'effet qu'a sa filiale Instagram sur, par exemple, la santé mentale des adolescentes. On apprend aussi que les salariés, quand ils discutent entre eux chez Facebook, ils disent au fond nos dirigeants sapent régulièrement tous nos efforts de lutte contre la désinformation et les discours haineux. C'est ça qu'on apprend dans les conversations des salariés de Facebook.
Et ce qui est intéressant qu'on apprend aussi, c'est le sous-investissement au fond dans la modération. La modération, c'est très important parce que c'est on met des holà au grand n'importe quoi que peuvent être les réseaux sociaux. Et en fait, on se rend compte que Facebook n'investit pas assez dans les autres langues que l'anglais. Donc, il est incapable de modérer les contenus, par exemple, dans certaines langues en Afghanistan. Il a pas assez de staff qui parle arabe ou qui parle birman. Ça a posé des problèmes avec les problèmes politiques en Birmanie récemment. Et puis il y a un problème sur les contenus. Ça, ils ont fait des efforts, mais ils ont pas travaillé sur les commentaires. Donc par exemple, vous avez des agences, des autorités de santé qui ont fait des campagnes pour la vaccination, sauf que les commentaires n'étaient pas du tout modérés. Et donc vous avez les anti-vax et les complotistes qui s'en sont donnés à cœur joie. Donc vous avez un vrai problème d'investissement dans la modération. Pourquoi ? Parce que ça coûte cher et que Facebook effectivement est obsédé par la croissance à tout prix, quitte à être conciliant avec certains régimes politiques ou quitte à laisser passer des choses sur Instagram comme de la traite d'humains. Donc on va sur des choses quand même très graves.
Alors Facebook va nous répondre qu'ils ont 15 000 modérateurs répartis dans 20 sites dans le monde et parlant 70 langues. C'est vrai, mais on n'a rien de précis sur cette répartition. Et c'est vrai qu'il y a le soupçon que la modération est beaucoup mieux faite en Occident et dans les pays anglophones qu'elle n'est faite dans des zones qui sont extraordinairement importantes, comme le monde arabe par exemple, qui est la troisième région pour Facebook en termes d'audience. Il y a eu, je crois, si on revient un instant en Asie, une phrase tout à fait importante qui est presque plus importante pour moi que les Facebook Papers ces derniers jours, c'est la prix Nobel de la paix 2021, qui est une journaliste philippine qui a partagé ce prix Nobel avec un collègue russe, Maria Ressa, et elle dit, s'agissant de Facebook, que c'est une menace pour la démocratie, ces algorithmes ont pour priorité, je cite, la dissémination des mensonges liés à la colère et à la haine plutôt que des faits. Cette philippine, elle parle, j'allais dire, de ce qu'elle connaît le mieux, son pays, et elle a vu l'effet de Facebook dans l'accession au pouvoir de quelqu'un qui est un populiste autoritaire dans son pays.
Juste une petite parenthèse, avant d'explorer ce sujet, les GAFA sont-ils plus forts que les États, insouciants des démocraties? Vincent Grimaud, ce métaverse là qui a été annoncé, c'est juste encore, c'est quoi? C'est de la diversion? Ça va être un chemin de profit énorme? Enfin, en quelques. Voilà.
Le métaverse, c'est quoi? Donc, c'est un peu compliqué à expliquer. En gros, il faut s'imaginer que demain, on mettra un casque de réalité virtuelle et on pourra se balader dans un monde virtuel. On pourra aller voir une séance de cinéma avec un ami qui aura aussi son casque de réalité augmentée. On pourra peut-être faire des réunions réunions professionnelles avec des hologrammes. Donc, vous apparaîtrez en virtuel dans une salle. Bon, tout ça, c'est un monde un peu rêvé que d'autres entreprises ont eu avant Facebook. Simplement, Facebook a des moyens où on peut se dire c'est peut-être un peu plus crédible, mais effectivement l'annonce en ce moment-là ressemble à un écran de fumée qui veut faire oublier un peu toutes les critiques actuelles.
Il y a les problèmes politiques de Facebook, on en a parlé, il y a les problèmes économiques, puisque comme je le disais, Facebook est d'abord et avant tout une entreprise. Et même quand le patron de Facebook iconique, Mark Zuckerberg, dit « je crée effectivement Meta », ce groupe qui va changer
Facebook,
nom,
Instagram,
comme avait fait
WhatsApp,
Google avec Alphabet en 2015. L'action perd néanmoins pas mal de son cours et de sa valeur. Pourquoi ? D'abord parce que Facebook, qui est une industrie publicitaire, voit, comme tout le monde, les tensions sur les chaînes d'approvisionnement, les pénuries de main-d'œuvre, qui font qu'il y aura beaucoup moins de dépenses, sans doute, de publicité sur ce qu'on appelle le Q4, c'est-à-dire le dernier trimestre, et ça va impacter, peut-être, le résultat de Facebook cette année. Deuxième sujet qui est beaucoup plus grave, Tim Cook dit, moi je ne veux plus de ce business sur les données personnelles, vous savez,
Tim Cook,
le patron d'Apple, voilà. Il dit cette idée que l'internet est totalement gratuit et qu'en réalité la gratuité vient de ce que je peux accéder sans limite aux données des utilisateurs, qui est un modèle que récuse Apple, je n'en veux plus et donc moi sur le matériel Apple, on va maintenant faire du tracking des apps et on n'autorisera plus du suivi exactement et on n'autorisera plus les apps comme Facebook, comme Twitter, comme Snapchat à utiliser n'importe comment sans consentement des utilisateurs les données personnelles des uns et des autres. Et ça fait très très mal aux industries, effectivement aux apps qui sont des industries publicitaires. Snapchat a perdu 25% de sa valeur en une journée suite à cette déclaration, d'autant que Google, qui est concurrent d'Apple, vient de dire on va faire exactement la même chose d'ici fin 2021. Donc il se joue derrière les problèmes politiques, des problèmes économiques assez cruciaux.
Et parlons quand même de politique, Vincent Grimaud, et d'économie. On voit donc que Facebook est très critiqué. Est-ce qu'aux États-Unis, on se pose la question, comme ici, du démantèlement? Est-ce qu'il y a des partisans du démantèlement? Et en Europe, on sait qu'il y a des textes qui sont en train d'être écrits à Bruxelles. On essaie d'ériger des digues. Qu'en pensez-vous?
Oui, le Federal Trade Commission, qui est l'autorité de la concurrence américaine, et ainsi que 46 États américains ont attaqué Facebook et Google d'ailleurs sur le fait d'être devenu si gros et pour abus de position dominante, en disant ils ont racheté des concurrents qui allaient émerger comme Instagram en 2012. Simplement, Facebook dit attention, vous faites du révisionnisme. Instagram, ça valait rien en 2012. C'est nous qui en avons fait une pépite. Bon, donc on peut avoir un débat là-dessus, mais c'est clair que là, il y a la question du démantèlement, elle se pose de plus en plus. Alors, est-ce que c'est bien? Il y a plusieurs choses dans le démantèlement. On a le démantèlement d'activités un peu redondantes. Par exemple, Facebook et Instagram, c'est redondant. On pourrait dire, on coupe en deux, et donc tout va bien, parce que de toute façon, c'est la même activité.
Ouais.
Et puis il y a des choses un peu plus compliquées comme Amazon. Amazon, c'est une marketplace, donc c'est un lieu virtuel où se rencontrent des offreurs, des demandeurs. Mais Amazon, c'est aussi un commerçant et c'est aussi
là vous passez un autre des GAFA, du mot GAFA, ok.
Ouais.
Donc
Mais du coup là, démanteler, c'est plus la même chose parce que c'est un modèle économique plus complexe dans lequel toutes les branches se renforcent. Et donc démanteler Amazon, c'est pas la même chose que démanteler Facebook. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre.
Ouais. Laurent Bigorgne, il nous reste une minute.
Chose d'important en Europe en ce moment, c'est qu'il y a deux grands textes qui sont en discussion, ce qu'on appelle le DSA, qui va en réalité être une directive sur les services digitaux, et le DMA, sur le marché digital. Et avec une ambition très forte des Européens, c'est de pouvoir à la fois demander une responsabilisation des plateformes. Il faut que les plateformes soient rendues responsables de leur contenu et que par ailleurs, l'Europe entend lutter contre l'abus de position dominante. Ce qui est évidemment reproché intrinsèquement à Facebook. Ce qui est intéressant depuis l'élection de Biden, c'est qu'il y a une convergence entre les demandes européennes qui sont en discussion. On verra si le texte aboutit au premier semestre qui vient de l'année 2022. Et une convergence, comme ça vient d'être dit à l'instant, avec ce qui se passe aux États-Unis, j'ajouterai avec ce qui se passe en Chine. Car là aussi, on voit que le pouvoir chinois veut réguler très sévèrement son industrie digitale.
Oui, Vincent.
Non, il y a vraiment un truc très important qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, les GAFA ont créé des silos fermés dans lesquels des univers dans lesquels ils sont les maîtres absolus. Et en fait, l'enjeu, c'est de casser ces silos pour avoir de l'interopérabilité. Quand vous faites votre plein de votre voiture, vous pouvez mettre la même essence dans une Toyota, une Renault, une Peugeot ou n'importe quelle marque. C'est pas du tout possible sur Facebook. Un contenu Facebook reste sur Facebook et peut aller que sur Instagram et WhatsApp. Et donc, l'enjeu, c'est de casser toutes ces barrières à l'entrée pour que tout soit interopérable. Les mails, par exemple, sont interopérables. Peuvent aller d'un truc à l'autre. Et donc, l'enjeu, c'est d'enlever toutes ces barrières parce que sinon, la concurrence n'existera jamais. Et là, je pense que à droite comme à gauche, tout le monde peut s'unir sur le fait que il y a pas de concurrence. Aujourd'hui, ils sont les maîtres absolus. Et si on règle pas cette question de l'interopérabilité, on n'aura jamais de concurrence sur les réseaux.
Et en tout cas, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de concurrent européen. Ça, ce qui nous pose la question pour un prochain débat, messieurs, de la tech européenne. Allez, on va voir l'économie, comment elle tourne ailleurs. On va prendre des nouvelles de Super Mario, l'homme qui accueille le G20 aujourd'hui, dans une Italie qui retrouve la confiance.
Il paese quest'anno crescerà oltre il 6%, probabilmente ben oltre il 6%. E questo è una bussola ed è la strategia di questo governo.
6% de croissance pour la péninsule cette année, voire davantage, c'est la boussole, c'est la boussole de ce gouvernement, a dit Mario Draghi, qui a présenté son budget 2022 jeudi soir. Bonjour Bruce de Galzin.
Buongiorno.
Vous êtes le correspondant de France Inter en Italie. Après le départ d'Angela Merkel, Mario Draghi est peut-être l'homme fort de l'Europe, Bruce. Tout dépend de ce que l'ancien banquier central parviendra à faire de l'économie italienne, qu'il veut remettre sur les rails. Est-ce qu'il peut? Est-ce qu'il va réussir son pari?
Alors d'abord, merci pour cette question, Alexandra. Je ne peux pas encore être péremptoire, mais tout de même, l'effet Draghi est bien présent en Italie et dans le monde. Les Allemands ont déjà évoqué un axe dragon entre Draghi et Macron, puisqu'Angela Merkel quittait le pouvoir. Mais en fait, Mario Draghi est surtout l'un des Européens les plus convaincus et veut travailler aussi avec l'Allemagne. L'effet Draghi se voit aussi au niveau international. Il préside le G20. Il n'y a jamais eu autant de G20 ministériels. Finance, culture, tous ont eu leur G20. Et puis, il n'y est pas pour grand-chose, c'est vrai, mais depuis qu'il dirige le pays, l'Italie a gagné l'Eurovision, l'Euro de football et même le 100 mètres aux Jeux Olympiques.
D'accord. Tout ça, c'est bon pour la confiance, d'accord? Vous voulez nous dire que tous les astres sont alignés, mais alors, est-ce qu'il se voit vraiment le changement?
Il se voit même dans la rue où se la construit, se la rénove. Mario Draghi a simplifié les règles de construction pour relancer les chantiers de travaux publics, car avec les 191 milliards de l'Europe, eh bien, il y a quelques chantiers à lancer. Et cela se voit aussi dans les réformes rendues possibles grâce aux fonds européens, mais à la croissance aussi, bien au-delà de 6% cette année, plus que ce que prévoyaient toutes les institutions. Même Standard & Poor's revoit les perspectives de l'Italie à la hausse. Les moteurs de cette reprise sont le taux élevé de vaccination, l'épargne privée très élevée aussi en Italie, la confiance et les investissements publics et privés, l'exportation et le tourisme. Mario Draghi fait pour l'instant des réformes favorables à la croissance, comme celle de la justice. Il a instauré des prescriptions, mais cela permet de se projeter. Il réforme la fiscalité aussi, en baissant les impôts de 12 milliards quand même. Et c'est grâce à la croissance, dit-il, que le déficit et la dette publique seront contenus et qu'il va réformer les prestations sociales et notamment les retraites. Ce n'est pas encore fait, mais il souhaite rééquilibrer les prestations des plus âgés vers les plus jeunes, qui n'ont pas grand-chose en Italie. Et là, c'est un sacré pari, hein, car les cerveaux quittent le pays. Draghi les fera-t-il rester? En tout cas, son pari, c'est la croissance, Alexandra, et pour l'instant, il le tient. Sauf que certains le voient déjà au Quirinal, c'est l'Elysée en Italie, et l'élection a lieu dans moins de 3 mois. Et si je peux être péremptoire, c'est bien là-dessus. Jamais on ne peut prédire l'avenir politique en Italie.
Bruce de Galzin avec nous de Rome. Merci à vous Bruce et merci aux débatteurs de ce samedi, Vincent Grimaud et Laurent Bigorgne. À présent, on pose sur la table cet énorme dossier, celui sur lequel il faut réfléchir, sur lequel il va falloir faire des choix. Nous parlons à la veille de la COP26 de la lutte contre le réchauffement climatique avec notre invitée. Elle s'est assise dans le studio 521. Bonjour Catherine McGregor.
Bonjour Alexandra Ben Saïd.
Vous êtes la directrice générale d'Engie. Vous êtes, on vous le dit souvent et je crois que ça finit par vous agacer, la seule femme aux commandes du CAC 40. Alors cette semaine, les sénateurs ont adopté une proposition de loi qui instaure des quotas de femmes dans les instances dirigeantes des grandes entreprises, c'est-à-dire les comités exécutifs, les comités de direction. Au moins 30% de femmes en 2027, au moins 40% en 2030. Catherine McGregor, vous qui êtes dans une grande entreprise, ça va changer quoi en réalité?
D'abord une réflexion, moi je trouve que en France, nous sommes en avance sur ces sujets.
Pour les femmes dirigeantes, vous
oui.
voulez dire? Alors vous êtes la seule.
Et pour le volontarisme, pour les lois, pour la loi Copé-Zimmermann par exemple, et puis la loi qui vient de voter cette semaine, oui, moi je trouve que c'est source de fierté. Je suis également bien sûr très fière d'être dirigeante chez Engie, où nous avons à peu près 30% de femmes dans nos parmi nos cadres dirigeantes, donc une belle représentation.
Et au-delà de la représentation, ça donne quoi finalement? On n'a pas constaté que ça faisait venir plus de femmes cadres aux échelons inférieurs. Qu'est-ce que ça apporte à l'entreprise?
Moi, je pense que c'est extrêmement important. C'est très important d'avoir des modèles. C'est très important de montrer aux jeunes femmes qui, par exemple, considèrent des carrières industrielles, de montrer que c'est possible. Donc, bien sûr que les rôles modèles sont importants. Donc oui, je suis très heureuse des progrès que nous faisons en la matière. Mais nous ne sommes pas encore à notre ambition qui est d'être à parité à l'horizon 2030. Donc, beaucoup de travail encore.
Donc, vous serez à 50-50 pour les comités de direction, les instances dirigeantes.
C'est notre ambition.
Bien. Question à présent sur la facture des abonnés au gaz. On voit aujourd'hui que les cours chutent maintenant que Vladimir Poutine a ordonné à Gazprom d'ouvrir les robinets à destination des Européens. Qu'est-ce que ça nous dit de la flambée récente des prix du gaz? C'était parce que l'économie redémarre partout en même temps, mais ça dit aussi en creux la dépendance de l'Europe à l'égard du Kremlin.
Vous avez parlé de la Russie, mais il n'y a pas que la Russie. Il y a aussi les approvisionnements de la mer du Nord, par exemple, et les importations de gaz naturel liquéfié qui, c'est vrai, ont été souvent détournées vers l'Asie où la demande était plus forte. Donc un équilibre demande-offre fragile et qui, donc, va devoir être regardé de très près pendant l'hiver, hein, parce que l'hiver est souvent une période de tension au sujet des prix du gaz.
Alors justement, c'est le patron de Total Energy, Patrick Pouyanné, qui dit que de toute façon, les cours resteront élevés même après l'hiver. Qu'en pensez-vous, Catherine McGregor?
C'est vraiment très difficile à prédire, hein, les cours du gaz. Moi, je pense que l'hiver va être une période un petit peu compliquée, mais on peut espérer qu'après l'hiver, on devrait voir, disons, une relaxation de la situation. En tout cas, je l'espère.
Concrètement, que vous espérez voir les cours baisser à partir de mars-avril?
À partir du printemps, on peut espérer que les cours vont effectivement baisser un petit peu, mais on n'en est encore une fois jamais sûr.
En tout cas, ce qu'a dit le gouvernement, c'est que les tarifs réglementés resteront gelés jusqu'à la fin de l'année 2022. Ça concerne 3 millions de clients chez vous. Du coup, ces clients, ensuite, ils paieront plus cher, même si les cours baissent, justement, parce qu'ils vont bien devoir financer ce rattrapage. Résultat, les Français sont coincés pour longtemps à des niveaux élevés du prix du gaz.
Alors, la crise, elle nous rappelle quoi aujourd'hui ? Elle nous rappelle que l'énergie a un impact potentiellement majeur sur le pouvoir d'achat des Français et puis également sur la compétitivité des entreprises, hein, qui est un autre sujet. Donc, vraiment, aujourd'hui, cette crise, elle remet le coût de l'énergie au centre des débats. Et c'est très important parce que, à la veille de la transition énergétique, en fait, ce que ça veut dire, c'est que cette transition énergétique, il va falloir qu'on intègre la contrainte coût pour qu'elle soit réussie. C'est vraiment très, très, très important.
Je comprends et on va y venir. Vous avez raison, au moyen, long terme. Mais là, bon, ben, on est à des niveaux élevés et finalement, entre le gel et le rattrapage, les Français vont payer pendant au moins 2 ans le gaz à un prix élevé.
Alors, les Français qui sont aux tarifs régulés et selon un mécanisme de lissage qui n'est pas encore complètement déterminé, donc il faudra voir la situation et la mise en œuvre, en fait, de ce lissage, qui n'est pas encore précisé, hein.
Cette semaine, on a eu le rapport de RTE qui pose la question du long terme, justement. En 2050, avec quelle énergie les Français vont-ils se déplacer, se chauffer, faire tourner leurs usines ? Alors, RTE nous décrit 6 scénarios. Et dans tous les cas, il y a une forte accélération du renouvelable, c'est-à-dire notamment des éoliennes et des panneaux solaires. Et ce virage-là, finalement, Engie, il a tardé à le prendre.
Engie est extrêmement, extrêmement ambitieux dans le développement des énergies renouvelables aujourd'hui.
Maintenant.
Nous sommes très ambitieux. Nous sommes aujourd'hui le premier opérateur en France d'éolien et de fermes solaires. Donc, je ne sais pas si ça veut dire être en retard, mais en tout cas, nous sommes premiers aujourd'hui en France.
Alors, pas en Europe, hein. Les Espagnols, Iberdrola, Enel, les Italiens sont bien
c'est
plus
vrai,
en avance.
C'est vrai, vous avez raison. Pas forcément du point de vue mondial, mais en tout cas, en France, hein, nous sommes les premiers. Donc, et nous accélérons, hein. Nous avons maintenant des ambitions très, très fortes, des investissements, des ambitions très fortes au niveau mondial de passer de 30 gigawatts à 50 gigawatts en 2025 et 80 gigawatts en 2030.
Donc ça veut dire, en termes de réacteurs nucléaires, ça fait combien de réacteurs nucléaires quand on dit ça ?
Alors, ça fait beaucoup, hein, de réacteurs nucléaires. Ça peut faire, disons, 50, 80 réacteurs nucléaires, si on devait vraiment comparer gigawatt à gigawatt. Mmh. Donc, une ambition très forte. Nous croyons aux énergies renouvelables. Et vous avez raison, hein, de toute manière, elles vont être absolument indispensables au bouquet énergétique en France, en particulier.
Indispensable, c'est ce que nous dit donc ce rapport de RTE. Il y a un souci, c'est que actuellement, trouver des terrains pour les installer, ces éoliennes, ces panneaux solaires, un terrain acceptable de tous les points de vue, ça n'est pas chose facile. Catherine McGregor, je vous propose d'écouter ensemble le reportage. Marion Ferrer s'est d'abord rendue dans le Nord, sur une base militaire désaffectée. Oui, il y a des panneaux solaires chez les ch'tis et il y a aussi du vent.
Ici, c'est une des principales fermes solaires photovoltaïques au sol en France. Elle est située sur les communes de Cambrai, Niergy et Serranvilliers, Foranville. Et donc, c'est une reconversion d'une ancienne base de l'OTAN qui avait notamment une problématique de pollution pyrotechnique avec pas mal d'obus dans les sols. Et on a effectué cette dépollution et puis donc redonné une seconde vie avec une centrale qui a une production significative pour le territoire. Et il faut savoir que c'est une installation qui est totalement réversible. Donc en fin de vie, on peut démonter donc les panneaux, les structures, afin de rendre vraiment le site à l'état naturel comme il était auparavant.
Tout autour de nous, il y a pas mal de... On les voit, là, les éoliennes, c'est plus classique. Mais on peut quand même faire du solaire dans des endroits un peu moins évidents.
Alors nous, aujourd'hui, on considère que l'on peut faire du solaire sur toute la France. Après, il va falloir analyser, bien sûr, chaque site. Et il est certain qu'on va avoir des différences de production d'énergie pour une même taille de centrale qui peut aller avec un écart de 50% entre le nord et le sud. Maintenant, quand on a une taille importante de projet comme ici, on arrive à faire déjà un projet avec une production importante et qui va alimenter une grande partie de l'agglomération.
Et là, l'énergie, elle est stockée où ? Du coup, il y a une énorme batterie quelque part.
Alors sur ce site-là, il n'y a pas de stockage. Par contre, il y a un procédé assez innovant au niveau du raccordement électrique, parce qu'on a fait un raccordement mixte solaire et éolien pour injecter plus d'énergie sur le réseau, tout en respectant donc l'équilibre demandé par le gestionnaire de réseau.
Denis Mitteau est chef de projet chez Sener, l'entreprise qui a construit cette centrale, 6 ans de travaux. De l'argent public et privé, l'idée c'est que le solaire puisse utiliser le réseau de l'éolien quand ça souffle moins en été, et c'est une première. Nous voici donc au cœur de la ferme solaire la plus au nord de France, parce qu'on ne va pas se mentir, hein, à Cambrai, 50% d'ensoleillement de moins qu'à Marseille, et pourtant, ça fonctionne. Les 170 000 panneaux solaires fournissent 77% de l'énergie hors chauffage de l'agglomération, 65 000 habitants, c'est du circuit court, et c'est ainsi que le stade du Hainaut est approvisionné en électricité verte. Une reconversion vraiment utile donc pour cette ancienne base de l'OTAN, un terrain que l'on dit dégradé. Le hic, c'est qu'aujourd'hui, au moment où il faut changer d'échelle, des terrains dégradés, il y en a de moins en moins, comme va le découvrir notre reporter.
Oui, bonjour, j'ai rendez-vous avec monsieur Alexandre Roche. Je suis Marion Ferrer, journaliste pour France Inter.
Deuxième étage.
Merci. Merci.
Alexandre Roche, délégué général du CER, syndicat des énergies renouvelables. L'accès au foncier, c'est sans doute en effet un des éléments qui peut être un facteur limitant, notamment pour le solaire, pour tenir les objectifs par exemple de la PPE, la feuille de route énergétique de la France finalement. Il nous faudra à peu près 3000 hectares par an. Ça vous donne un ordre de grandeur. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une stratégie de développement du solaire sur des sites qu'on appelle dégradés, des anciens terrains militaires, des anciennes friches industrielles, des anciens sites d'enfouissement de déchets. On a une stratégie qui vise aussi à développer beaucoup le solaire sur les toitures. Tous les nouveaux bâtiments commerciaux, ombrières de parking, hangars, etc., qui se construiront à l'avenir, dès lors qu'ils font plus de 1000 m², devront être équipés soit d'une toiture végétalisée, soit d'un dispositif de production d'énergie renouvelable. Mais ça ne sera pas suffisant. Il faudra aussi développer des grandes centrales solaires au sol, parce que c'est ce qui est plus compétitif également. Et ça pose la question, en effet, de l'accès au foncier. Ça ne veut pas simplement dire l'accès au terrain directement. Ça veut dire l'ensemble des règles qui font qu'aujourd'hui, on ne peut pas développer des énergies renouvelables partout en France, et notamment l'éolien. Et d'ailleurs, il ne faut pas se tromper, si on a beaucoup d'éolien dans les Hauts-de-France aujourd'hui, dans la région du Grand Est, certes, c'est parce qu'il y a du vent dans ces régions, mais c'est aussi parce que dans d'autres régions, il est très difficile de développer l'éolien.
Des éoliennes terrestres, on en compte 8000 dans tout l'Hexagone. Pour la ministre de la Transition énergétique, Barbara Pompili, il faudrait au minimum doubler ce chiffre pour atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Les préfets sont mis à contribution pour trouver de nouveaux sites où implanter ces futurs projets. Mais une fois qu'on prend en compte toutes les contraintes, on exclut la moitié du territoire. Ces obstacles, François Domard doit jongler avec au quotidien. Le président de Valeco, groupe spécialisé dans le développement des énergies renouvelables, pointe une autre difficulté, celle de l'acceptabilité sociale.
L'éolien aujourd'hui fait l'objet de contestation, on ne peut pas cacher une éolienne. Or, certains les trouvent belles, d'autres les trouvent pas très jolies, ça dépend, c'est subjectif. Et pour les faire accepter, il faut donc beaucoup dialoguer, beaucoup comprendre, il faut les installer à des endroits où c'est intelligent de les placer, on ne peut pas les mettre partout. On doit être à des distances de plus de 500 mètres, voire plus des habitations par rapport à des contraintes visuelles, des contraintes acoustiques, des contraintes... avec l'armée de l'air, avec l'aviation civile, sur 5 projets qu'on va initier, au bout de 5 ans ou 8 ans, on va concrétiser un projet sur 5.
Les fermes solaires sont plus simples à faire accepter, mais aujourd'hui ce sont principalement des projets de revalorisation de terrains dégradés, des surfaces qui sont limitées. Est-ce que ça va suffire pour atteindre les objectifs ?
On peut pas éliminer le fait de faire des petits parcs. Les petits parcs, ils se font sur des friches industrielles, des anciennes carrières, des anciennes décharges, des anciennes friches industrielles. Par contre, demain, si l'ambition de la France, c'est d'être souverain en tant que producteur d'énergie, et avoir une maîtrise totale du coût de l'énergie pour le bien-être de ses citoyens, il faut produire de l'énergie renouvelable à des prix compétitifs, et les prix compétitifs passent par des projets de taille significative. Et le grand challenge, c'est être présent sur l'éolien offshore flottant en France, parce que la France bénéficie à des atouts avec un grand territoire côtier et une capacité de faire des grandes centrales éoliennes offshore de grande puissance.
Remplacer les anciennes éoliennes par de nouvelles, bien plus grandes et deux fois plus performantes. Exploiter l'offshore en implantant des éoliennes cette fois au large des côtes. Les producteurs d'énergie renouvelable sont en quête de solutions. Et pour le solaire, tous les regards se tournent vers les terres agricoles, un vivier de 30 millions d'hectares à travers tout le pays. De quoi changer de dimension et accueillir des parcs solaires bien plus grands. Mais pas question de faire n'importe quoi. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, se penche sur la question. Elle publiera d'ici la fin de l'année une étude sur l'agrivoltaïsme. Jean-Michel Parouf et ses équipes vont y dresser les critères à respecter pour combiner au mieux culture et production d'énergie. L'ADEME cible dans un premier temps 28 000 hectares exploitables.
Ce type de projet doit apporter un service direct à l'échelle de la parcelle, c'est-à-dire on peut imaginer une protection, donc une adaptation au changement climatique, une protection aussi contre les aléas météorologiques. Il y a des expérimentations actuellement dans le sud de la France qui visent effectivement à assurer une protection des vignes, notamment contre le rayonnement solaire direct l'été, donc pour éviter ce qu'on a vécu il y a 2 ans, je pense, avec des vignes qui étaient brûlées littéralement à la fois par la canicule et le rayonnement solaire direct, mais aussi ça permet de protéger éventuellement contre des épisodes par exemple du type gel ou du type grêle. C'est en fait cette transition énergétique, notamment basée sur les énergies renouvelables, elle pose une question fondamentale, c'est celle de la visibilité des infrastructures énergétiques. On était habitué jusqu'à présent, notamment à travers l'utilisation des combustibles fossiles, à des infrastructures qui étaient surtout déployées dans d'autres pays à l'extérieur du territoire national, et donc on voyait beaucoup moins en fait ces infrastructures puisqu'il s'agissait essentiellement de, par exemple, de raffineries de pétrole ou éventuellement de centrales nucléaires, mais il y en avait moins. Là, ce qui se passe, c'est qu'on va reterritorialiser la production d'énergie. Néanmoins, on peut, je pense, concilier la production énergétique, évidemment, l'appropriation sociale et donc cette question et cet enjeu d'acceptabilité sociale, mais aussi effectivement la protection à la fois des paysages et de l'environnement de manière générale.
Éolienne, photovoltaïque, recherche terrain désespérément, c'était le reportage de Marion Ferrer.
Tous les samedis, à partir de 9h, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Et nous sommes toujours en compagnie de Catherine McGregor, la directrice générale d'Engie. Engie qui veut justement installer des panneaux solaires, qui veut accélérer sur les éoliennes. C'est dur vraiment de trouver du terrain en ce moment, Catherine McGregor ?
Bah écoutez, c'est un des défis et votre reportage a souligné beaucoup de pistes hein, que nous explorons, que nous exploitons en fait, en particulier les terrains en friche, les terrains industriels, également l'agrivoltaïsme. Je vous donne un exemple, moi j'ai eu la chance d'aller inaugurer une grande ferme solaire en Île-de-France, qui est en fait à l'avantage de se trouver sur justement une friche industrielle. Le maire de Marcoussis a d'ailleurs utilisé ce beau terme de terrain délaissé. Et cette ferme solaire, elle a bénéficié d'un engagement extrêmement fort des citoyens, avec financement participatif, hein, qui est une des mesures très concrètes maintenant qu'ont les citoyens de s'engager sur ces projets renouvelables.
Est-ce que c'est un moyen, tiens, le financement participatif ? On fait participer les gens et on leur dit qu'en plus, peut-être qu'ils auront l'électricité en circuit court. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut œuvrer à ce qu'on appelle l'acceptabilité ?
Tout ce qui peut, en fait, augmenter l'appropriation de nos citoyens, de ces ressources et de ces moyens de production de l'énergie, aide énormément les problèmes d'acceptabilité. Et nous, ce qu'on constate, hein, et on essaie vraiment d'impliquer les citoyens qui s'approprient ces enjeux énergétiques. Car c'est vrai, hein, c'était dit dans le reportage d'ailleurs, finalement, ces projets énergétiques, c'est aussi plus d'indépendance énergétique. C'est des moyens de production locaux. Et les citoyens, ils le comprennent.
Et cependant, dans cette campagne, vous entendez certains candidats qui ne veulent pas d'éoliennes. Alors justement, dans les Hauts-de-France, il y a Xavier Bertrand qui dit qu'il voudrait un moratoire sur les éoliennes. L'éolien, il y en a marre. Marine Le Pen, elle veut démonter certains parcs. Que leur dites-vous à ces candidats ?
Alors, moi, je dis que si on veut décarboner la France à l'horizon 2050, il va falloir développer des nouvelles capacités d'énergie renouvelable, du solaire et de l'éolien à peu près au même rythme qu'aujourd'hui. Donc, il est, à mon avis, extrêmement dangereux de vouloir faire un moratoire sur l'éolien aujourd'hui en France. Et je pense que ça sera une erreur majeure pour le destin décarboné de la France. Et donc, je suis très contre. En revanche, je dis, bien sûr, qu'il faut faire les projets de manière responsable, avec un engagement très, très en amont des parties prenantes locales, des citoyens, et trouver les bons projets.
L'éolien, vous y croyez, le solaire, vous y croyez, c'est indispensable. Je reviens au gaz. Est-ce que le gaz a un avenir dans cette transition énergétique ?
Le gaz est très important pour la transition énergétique.
C'est une énergie fossile.
Le gaz n'est pas forcément une énergie fossile. Aujourd'hui, principalement, le gaz est d'énergie fossile. Le gaz, qu'est-ce qu'il a ? Le gaz, il est stockable, il se transporte et il a aussi une forte densité énergétique. C'est vraiment un complément très important, en particulier des énergies renouvelables, qui sont par nature intermittentes. Donc oui, il a toute sa place dans la transition énergétique. Alors, bien sûr, il faut le verdir. Donc, biométhane, le biométhane, c'est du gaz naturel, mais qui est produit à partir de déchets agricoles, de déchets forestiers, donc produit également localement. Et le biométhane, c'est une réalité déjà aujourd'hui en France. Et puis, bien sûr, plus tard, l'hydrogène. L'hydrogène qui est également un gaz et qui permettra, lui, pour le coup, d'avoir une énergie complètement décarbonée.
Catherine MacGregor, la COP26, elle démarre demain. Alors, ces grandes messes climatiques, on se rend compte après coup qu'il y a eu beaucoup d'engagements des États et puis il y a un fossé avec la réalité. Qu'est-ce que vous en attendez, vous, de cette COP26 à Glasgow ?
Bon, moi, je suis très volontariste. Chez Engie, on a pris des engagements de neutralité carbone à l'horizon 2045 sur tous les scopes. Donc, je vais vous passer les détails techniques, mais on est très volontariste, très ambitieux. Donc, je suis très optimiste, malgré, je le reconnais, un certain pessimisme ambiant qui règne au sujet des niveaux d'engagement des États en particulier.
Alors vous êtes arrivé en janvier chez Engie. Vous dites que vous voulez réinstaller l'énergéticien sur le podium des grands énergéticiens européens. Bon, on est 13 ans après la fusion Suez-GDF. Certains observateurs disent que le mariage, il a été raté. Certains disent qu'Engie sera bientôt à vendre.
Alors, Engie n'est pas à vendre. Engie est en croissance. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous conduisons un processus de cession, puisque nous avons un processus de cession de nos services multitechniques, notre belle entreprise Equans.
C'est 13 milliards de chiffre d'affaires, c'est près de la moitié de vos salariés. Engie maigrit.
Engie fait des choix, et Engie se recentre, et Engie repart en croissance, en concentrant nos investissements, qui sont des investissements massifs, de 15 à 16 milliards d'euros dans les 3 prochaines années, donc 40 à 45% dans les énergies renouvelables. Donc non, nous partons en croissance.
Dernière question, Catherine MacGregor. On a appris ce vendredi que le parquet national financier enquête depuis mi-juin sur des soupçons de trafic d'influence autour de la fusion Veolia-Suez et le président d'Engie est aussi soupçonné. Est-ce que vous avez un commentaire ?
Écoutez, j'ai lu cette dépêche comme vous et vraiment à ce stade, je n'ai aucun commentaire à apporter.
Catherine MacGregor, la directrice générale d'Engie, merci d'avoir accepté l'invitation d'On n'arrête pas l'écho.
Merci.
À présent, les questions à Madame Vieux-Boulot. Claude, qui est ancien cadre dans l'aéronautique, s'inquiète des mesures de sous-valorisation des retraites complémentaires qui entrent en vigueur lundi prochain. Sandrine Foulon, est-ce que la retraite de Claude va baisser ?
Claude, vous l'avez entendu, pour maintenir à flot le régime de retraite complémentaire obligatoire, les partenaires sociaux ont décidé de ne revaloriser les pensions Agirc-Arrco que de 1% cette année. D'habitude, ils suivent l'inflation. Or, en 2021, elle devrait être de 1,5% hors tabac. Claude, pas besoin de vous faire un dessin, l'augmentation sera moins importante que prévu et surtout sous-indexée de 0,5 points par rapport à l'inflation. Avec les hausses du prix du gaz, du pétrole ou des pâtes, c'est une mauvaise nouvelle pour 13 millions de retraités du privé en moyenne. Ce deuxième étage de la fusée représente un tiers du montant de leur pension et pour certains cadres, comme vous Claude, ça peut monter jusqu'à 60%. Le problème est que la crise sanitaire est passée par là pour les organisations organisations patronales et syndicales qui gèrent ensemble ce régime, il fallait éponger un déficit de près de 5 milliards. Ce n'est pas la première fois que les complémentaires se serrent la vis. En 2015, les partenaires sociaux avaient introduit une décote provisoire de 10% pendant 3 ans pour les pensionnés qui décidaient de partir pile poil à 62 ans, l'âge légal de la retraite.
Et Sandrine, si on regarde sur le long terme, les futurs pensionnés, est-ce qu'ils pourront compter sur leur retraite complémentaire pour ne pas trop perdre en pouvoir d'achat?
Pour ça, il est instructif de regarder les chiffres du Conseil d'orientation des retraites. Un salarié né en 1940 perçoit à la retraite à peu près 80% de son ancien salaire. Pour un jeune de la génération 2000, ce ne sera plus qu'aux alentours de 60%. Ce qu'on appelle le taux de remplacement baisse sous l'effet des réformes des retraites, on le savait. Mais ce qui est révélateur, c'est de voir que la part des retraites complémentaires chute plus vite que celle du régime de base. Les droits de l'Agirc-Arrco sont de plus en plus faibles au fil des générations. Leur particularité est d'être calculée en points. Et ce qu'on observe aussi depuis des années, c'est que le rendement du point a fortement baissé. Pour 1 euro cotisé, un salarié du privé aujourd'hui a 2 fois moins de droits qu'il y a 45 ans. Rassurez-vous tout de même, Claude, le système de retraite de base et complémentaire demeure robuste, mais tous ces éléments pèsent dans la balance quand les cotisations sont transformées en points et que tous ces points deviennent ensuite des euros.
Sandrine Foulon, Madame Vieux-Boulot, on peut vous envoyer des questions, n'est-ce pas Sandrina? On n'arrête pas l'écho, tout attaché, @radiofrance.com ou alors, encore plus simplement, on va sur le site de France Inter et on passe par la page de l'émission. Merci à vous Sandrine, merci à Valentin Pérez qui prépare cette émission avec moi, à Juliette Medevielle, notre réalisatrice ce matin, et puis à la technique, il y avait Mathias Aléon et au mixage, Jérémy Kaufmann.